Fun for you avec Parthenamut sur Fun Radio.
Et salut tout le monde, bienvenue dans le 15e épisode du podcast Fun for you, podcast que vous retrouvez chaque semaine, je le rappelle, sur funradio.be, sur l'application Fun Radio BE et sur toutes les plateformes de podcast, un podcast dédié à la santé, au bien-être et à la vie intime avec un invité aujourd'hui. Il s'appelle Thierry Martin, il est le directeur de la plateforme Prévention Sida et il est mon invité à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida qui a lieu chaque année le 1er décembre. Fun Radio. Et j'accueille Thierry Martin qui est mon invité aujourd'hui. Salut Thierry.
Salut.
Directeur de la plateforme Prévention Sida. Alors Thierry, en 2024, 662 nouveaux diagnostics de VIH ont été enregistrés en Belgique. On en est où en Belgique par rapport à tout ça, le sida, le VIH? Est-ce que les chiffres sont en augmentation, en diminution? Est-ce qu'on est stable?
Donc en fait, les nouvelles ne sont pas nécessairement bonnes, puisque après une diminution d'une dizaine d'années, où on avait vraiment réussi à faire reculer l'épidémie, notamment grâce à l'arrivée de la PrEP, du traitement préventif, depuis 3 ans, on voit une reprise de l'épidémie et les contaminations repartent à la hausse. Ce qui ne nous étonne pas vraiment, parce qu'on voit aussi qu'à côté du VIH, les cas de chlamydia, syphilis, gonorrhée explosent, par exemple. Et je dis vraiment explosent, il y a vraiment une très forte augmentation, et les cas d'infection gonorrhée ont augmenté de plus de 100% en quelques années. Donc il y a vraiment un relâchement de la prévention, et pour nous c'est vraiment important, à nouveau, à l'occasion de la Journée mondiale du sida, un peu de retaper sur le clou.
Est-ce qu'il y a une partie de la population, une région, une tranche d'âge dans laquelle on remarque que cette augmentation est plus importante?
Ben en tout cas, par rapport au VIH, c'est certainement les trentenaires qui sont le plus concernés par rapport au VIH, tandis que les plus jeunes sont concernés notamment par la chlamydia, qui reste l'infection qui touche de plus en plus les jeunes de 15 à 25, 30 ans, principalement les filles, même si on voit une augmentation chez les garçons. Et pour le VIH, il y a une augmentation assez importante chez les hommes, qu'ils soient hétérosexuels ou qu'ils soient homosexuels. Mais en tout cas, par rapport au VIH, on voit qu'il y a quand même un vieillissement un peu de la population ou des gens qui sont infectés par rapport à cette maladie, qui reste une maladie grave, une maladie dont on ne guérit pas. C'est quand même important de le rappeler. Et les autres IST concernent, un public qui est quand même relativement plus jeune.
Alors, tu en parlais il y a quelques minutes, chaque année le 1er décembre, c'est la Journée mondiale de lutte contre le sida. En quoi elle est importante, cette journée?
Elle est importante simplement parce qu'on retape sur le clou. C'est clair que le sida, le VIH, ça fait quand même moins la une de l'actualité. C'est devenu une maladie qui est quand même considérée comme étant moins grave qu'auparavant, puisqu'il y a quand même les traitements qui sont arrivés dans les années, fin des années 90, et qui sont des traitements efficaces et qui s'améliorent encore actuellement. Donc les gens ont moins peur. Et donc, ils sont moins informés, ils connaissent moins les modes de transmission et surtout, ils utilisent moins le préservatif. Et donc, pour nous, ce 1er décembre nous permet d'attirer l'attention à nouveau du public, parce que vraiment, le sida reste une maladie grave. Une maladie, c'est clair qu'on peut vivre médicalement beaucoup mieux avec aujourd'hui et que l'espérance de vie est quasi normale. Mais ce que les gens ne voient pas non plus, c'est que le nombre de visites médicales, les effets secondaires des traitements, même s'ils diminuent, et surtout la stigmatisation. On voit encore trop de personnes qui n'osent pas dire qu'elles sont séropositives parce qu'elles ont peur d'être discriminées. Là, on vient de faire une enquête qui montre encore notamment que des dentistes refusent de soigner des patients. On est en 2025. Et donc, c'est clair que pour nous, ça reste quelque chose d'irréaliste, surtout qu'on le sait, c'est prouvé scientifiquement. Une personne séropositive qui va prendre un traitement va avoir une charge virale indétectable et ne va pas transmettre le VIH.
Alors, tu en parlais du coup de la Journée mondiale de lutte contre le sida. À cette occasion, vous avez lancé mi-novembre une nouvelle campagne en télé, dans la rue aussi, il y a des affichages. À la radio, d'ailleurs, je propose qu'on écoute le spot radio.
Hey, ne bois pas dans son verre, il a le sida.
Alerte, un préjugé a été détecté.
En 40 ans, la science a bien évolué. Aujourd'hui, grâce au traitement, on vit avec le VIH en bonne santé, sans développer le sida et sans transmettre le virus.
Mise à jour effectuée.
Mettez à jour vos connaissances pour qu'on en finisse avec les préjugés. Et au fait, boire dans le verre de quelqu'un, ça n'a jamais transmis le VIH.
Téléchargez les faits, effacez les préjugés.
Un message de la plateforme Prévention Sida avec le soutien de la Wallonie et de la COCOF.
L'objectif de cette campagne, c'est corriger les fausses croyances, rappeler les réalités médicales actuelles et lutter contre les préjugés. Elle consiste en quoi concrètement cette campagne, Thierry ?
Eh bien, c'est simplement, c'est un peu triste de le dire comme ça en 2025, mais revenir aux fondamentaux. On voit quand on va sur le terrain, quand on va dans les festivals de musique, quand on parle avec les gens, ils sont moins au courant aujourd'hui de la manière dont le VIH se transmet. On voit encore des gens qui pensent que manger avec la même fourchette qu'une personne séropositive, c'est un risque de transmission.
Mais comment on peut expliquer finalement toute cette désinformation ? Parce qu'il y a eu la génération SIDA, on en a beaucoup parlé, ces gens-là, on les a informés quand cette maladie est arrivée. Aujourd'hui, pourquoi finalement les gens ne sont plus informés ? Parce que on se dit ça ne m'arrivera pas, c'est quelque chose qui n'arrive qu'aux autres.
Il y a de ça, mais il y a surtout un effet de génération. C'est clair que voilà, le sida a plus de 40 ans.
Ouais.
Et donc, les jeunes aujourd'hui qui ont 15 ans, 20 ans, sont nés avec une image du sida que les plus anciens n'ont pas connue. Avec les gens qui mouraient. Et on a tous connu dans notre entourage des gens qui mouraient du sida, en tout cas pour les plus âgés. Aujourd'hui, les jeunes voient des personnes séropositives qui vivent relativement bien. Beaucoup ne se sentent pas concernés non plus, parce qu'on parle beaucoup du sida pour un public homosexuel, pour les usagers de drogue, pour les toxicomanes, pour les travailleurs et les travailleuses du sexe. Donc oui, ces publics sont concernés, mais à un moment donné, tout le monde a potentiellement un risque, s'il n'y a pas de mesure de prévention, de contracter le VIH, notamment lors des relations sexuelles. Donc il faut casser un peu tous ces préjugés et actualiser ses connaissances. Vivre avec le VIH aujourd'hui, ce n'est pas la même chose que vivre avec le VIH dans les années 80 et dans les années 90. Et donc, vraiment, même s'il n'y avait déjà pas de raison de stigmatiser les personnes séropositives, aujourd'hui, il y en a, mais alors vraiment pas. On peut vivre avec une personne séropositive sans avoir aucun risque de transmission à partir du moment où elle prend un traitement. Donc l'enjeu, c'est vraiment aujourd'hui de dépister les personnes séropositives qui ne savent pas qu'elles sont séropositives pour les mettre sous traitement le plus vite possible, puisque ça va améliorer leur qualité de vie, leur espérance de vie, et surtout elles ne vont plus transmettre. Aujourd'hui, des personnes qui contaminent d'autres, ce sont des personnes vivant avec le VIH, mais qui ne savent pas qu'elles sont porteuses du VIH.
La discrimination, elle existe partout, on en parlait tout à l'heure, même dans le milieu médical, comme les dentistes qui proposent des rendez-vous en fin de journée aux personnes qui vivent avec le VIH. Pourtant, il n'y a aucun fondement médical, c'est discriminant et ça ne sert strictement à rien.
Oui, ça ne sert vraiment à rien. Il y a plus de risques pour un dentiste, par exemple, de soigner quelqu'un qui est séropositif et qui l'ignore.
Oui.
Il n'y a pas de risque de transmission de VIH à partir dans les gestes de la vie quotidienne, même lors de relations sexuelles, même lors d'actes médicaux, à partir du moment où une personne séropositive prend un traitement et une charge virale indétectable. Donc la discrimination... on met ça de côté, ça n'a aucune raison d'être. Par contre, on voit encore des gens qui continuent de nous dire qu'ils ont peur des personnes séropositives, que les personnes séropositives sont dangereuses. Et donc ça, c'est des choses qui sont totalement inaudibles pour nous, puisqu'il faut leur répéter, indétectable égale intransmissible. Une personne qui va prendre un traitement et qui vit avec le VIH ne transmet plus le virus.
Alors pour en revenir un peu à cette campagne que vous avez lancée il y a quelques jours maintenant, il y a un quiz qui est gratuit, 3 niveaux. Il est disponible sur le site de la plateforme Prévention Sida, préventionsida.org. Il est destiné à qui ce quiz ?
Bien à tout le monde. En fait, c'est l'occasion, ce 1er décembre, un peu d'actualiser ses connaissances, de rebooster un peu le système et de s'intéresser à une thématique qui finalement reste importante et qui peut affecter nos vies quand même de manière très très négative si par malheur une contamination peut avoir lieu. Donc on invite vraiment tout le monde faire ce quiz pour véritablement savoir comment le VIH se transmet. Parce que si on ne sait pas très bien comment le VIH se transmet, alors oui, on connaît les grandes lignes, mais dans les détails, c'est là qu'effectivement se joue toute la discussion et toute la finesse, eh bien on n'adopte pas des comportements préventifs adéquats. Si je pense que je peux être infecté que je ne peux pas être infecté par une fellation sans préservatif, eh bien, il faut dire que c'est pas vrai. Il y a un risque, il est fait, mais s'il y a éjaculation dans la bouche, le risque est important. Donc les gens doivent savoir ça pour justement soit mettre un préservatif pour la fellation, soit bien entendu ne pas éjaculer dans la bouche.
Justement, j'ai prévu quelques questions pour revenir un peu aux bases du SIDA, des MST, du VIH, des IST aussi, avec une série de questions auxquelles tu vas pouvoir nous répondre. Par exemple, quelle est la différence entre le SIDA, le VIH et les IST du coup ?
Alors ça, c'est clair que c'est une question qu'on nous pose beaucoup, hein. Donc le VIH, c'est un virus, le virus de l'immunodéficience humaine que l'on attrape lors de relations sexuelles sans préservatif. Et donc ce virus, une fois qu'il sera dans notre corps, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va détruire notre système immunitaire. Donc, c'est le système qui nous protège des maladies. Et donc, avec le temps, on en aura de moins en moins. Le système immunitaire va s'affaiblir. Et donc, dans quelques années, on va tomber malade d'infection, de cancer, de pneumonie. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on devient malade du sida. Donc, VIH positif, on est porteur du VIH, mais ça ne se voit pas nécessairement, ouais. Mais on peut le transmettre. Et le stade sida, c'est vraiment quand on développe des maladies qui sont causées à cause d'un système immunitaire affaibli.
Et les IST, du coup ?
Alors, les IST, ce sont des infections sexuellement transmissibles et le VIH est une infection sexuellement transmissible, comme l'est également la gonorrhée, la chlamydia, la syphilis. La différence du VIH, c'est qu'on n'en guérit pas. Ça, c'est important de le dire, alors que la syphilis, avec un traitement, c'est le cas pour la gonorrhée et la chlamydia, avec un traitement, on peut en guérir. Mais ce n'est pas parce qu'on en guérit qu'on ne peut pas le rattraper par la suite.
Alors, tu as déjà répondu un peu à cette question tout à l'heure, mais partager ses couverts peut transmettre le sida. Vrai ou faux ?
Non, c'est faux. Tous les gestes de la vie quotidienne ne sont pas des modes de contamination du VIH. On peut aller au restaurant avec une personne séropositive, boire dans son verre, aller sur les toilettes après une personne séropositive. Il n'y a aucun risque. On peut travailler avec une personne séropositive. Aucun risque de transmission. Les seuls modes de transmission, c'est un contact lors de relations sexuelles sans préservatif, non protégé, la transmission de la mère à l'enfant et un contact avec le sang, notamment lors de l'injection de drogue par voie intraveineuse. Ce sont les trois seuls modes de contamination.
C'est quoi la PrEP ?
Alors la PrEP, oui, c'est un nouvel outil de prévention qui est encore souvent très peu connu, ouais. Mais qui marche vraiment très très bien et c'est un traitement préventif. En fait, c'est un traitement que l'on va donner aux personnes qui ont beaucoup de risques de contracter le VIH. Donc, qui ont soit une activité sexuelle intense à un moment donné de leur vie, on n'a pas nécessairement une activité sexuelle intense tout au long de sa vie, soit ce sont des personnes qui ont du mal à utiliser le préservatif, ou les travailleurs du sexe, dont c'est le métier aussi que d'avoir des relations sexuelles. Et donc, c'est un traitement que ces personnes vont pouvoir prendre pour se protéger d'une potentielle contamination au VIH. Donc ça ne marche que pour le VIH, ouais. Et pas pour les autres infections sexuellement transmissibles. Mais en tout cas, si c'est un mode de prévention qui vous intéresse, allez sur notre site préventionsida.org et vous trouverez tous les détails pour savoir où aller pour le trouver.
C'est quoi les symptômes du VIH et des IST ?
Alors souvent, le VIH et les IST sont asymptomatiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de symptômes. Et donc, d'où la difficulté aussi à un moment donné par rapport au dépistage, parce que souvent, on va se dépister quand il y a quelque chose qui a l'air un peu hors de la normalité. Mais ça arrive parfois, donc on puisse avoir au niveau des IST des démangeaisons au niveau des organes génitaux, des liquides un peu nauséabonds, bruns qui peuvent sortir du sexe, des boutons qui peuvent apparaître. Donc quand on a ces symptômes, il est urgent d'aller consulter un médecin pour se faire dépister et avoir un traitement, puisque les IST se guérissent pour la plupart, sauf le VIH. Le VIH, les symptômes sont un peu différents, puisque quelques semaines après ou quelques jours après une contamination, on peut avoir des symptômes assez banaux, comme un état grippeux, comme si on avait un rhume finalement, quelque chose comme ça, et puis ça part. Mais le VIH lui reste.
Il faut attendre combien de temps pour faire un test après un rapport à risque ?
Donc en tout cas pour le VIH, si vous voulez faire un test pour le VIH, c'est 6 semaines, 4 à 6 semaines pour une prise de sang. Ça dépend aussi si vous faites un dépistage rapide ou un dépistage rapide, là c'est 3 mois. Mais la prise de sang, c'est 4 à 6 semaines. Et alors pour le nombre de fois qu'on se dépiste, ça dépend vraiment de votre activité sexuelle. Alors oui, si vous n'avez pas fait de test depuis longtemps, c'est toujours intéressant d'en faire un pour faire un petit check-up. Mais si vous avez une activité sexuelle importante ou si vous prenez des prises de risque importantes, il faut au moins 2 voire 3 par an. Quoi.
On fait quoi si la capote craque pendant un rapport sexuel ?
Et donc si la capote craque, il y a un outil de prévention qui existe, qui est le traitement post-exposition, le TPE, qui est aussi un traitement que vous devez prendre rapidement après le craquage de capote, dans l'idéal dans les 48 heures, et qui est disponible dans les urgences des hôpitaux où il y a un centre de référence sida. Et ce traitement que vous devrez prendre pendant un mois, donc c'est pas la pilule du lendemain ou juste une pilule, hein, c'est un traitement à prendre pendant un mois, c'est quand même un traitement lourd puisque c'est les mêmes traitements qu'on donne aux personnes séropositives. Et ce traitement va empêcher que le virus ne s'installe dans votre organisme.
Un petit dernier, on le sait, il y a de plus en plus d'autotests qui sont disponibles dans les pharmacies. Est-ce qu'ils sont efficaces, ces tests ?
Oui, les autotests sont efficaces. Mais il faut, pour utiliser un autotest, c'est un test que l'on fait soi-même.
Ouais.
De un, il coûte cher, hein, c'est une trentaine d'euros en pharmacie, donc c'est quand même un certain coût. Et puis, il faut savoir l'utiliser tout seul chez soi. Ce n'est pas donné à tout le monde, donc on le conseille surtout aux personnes qui ont un peu l'habitude de se tester eux-mêmes. Si c'est la première fois que vous voulez faire un test de dépistage, sans doute pas l'autotest qu'il faudrait faire. Il vaut mieux que vous alliez soit à la plateforme prévention sida ou soit auprès de votre médecin ou dans un centre de planning pour avoir une prise de sang. Parce que la prise de sang, c'est quand même le meilleur test possible. Parce que même si votre autotest est positif, il faudra le confirmer par une prise de sang. Et en plus, avec la prise de sang, le délai est plus court puisqu'on peut en faire une après 4 à 6 semaines, tandis que pour l'autotest, on est 3 mois après une prise de risque.
Pour en revenir un peu à cette campagne que vous avez lancée il y a quelques jours maintenant, elle se décline aussi sur TikTok avec une mini-série dans l'esprit des dramas qu'on a l'habitude de retrouver sur la plateforme. Finalement, on suit 4 personnages, Rachel, Victor, Brandon et Henrik. Alors TikTok, on le sait, ça touche les jeunes. Est-ce que c'est important d'aller cibler les jeunes aujourd'hui directement sur des réseaux sociaux où ils sont actifs finalement ?
Ah ben évidemment, c'est clair qu'aujourd'hui, on ne fait plus des campagnes de communication comme on l'a fait il y a 20 ans, voire 30 quand moi j'ai commencé. Et donc effectivement, les réseaux sociaux sont importants pour nous et notamment TikTok qui est quand même le média qui a explosé les dernières années auprès des jeunes. Mais même en termes de contenu, il faut proposer du contenu TikTok.
Ouais.
On va pas faire une campagne où on va juste mettre notre affiche sur TikTok. Personne ne va regarder ça.
Il fallait un truc un peu impactant.
Voilà, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on a eu cette idée un peu de parodier les soaps genre Top Model, Amour, Gloire et Beauté, Les Faux de l'Amour, où on a mis en scène une personne qui apprend qu'elle est séropositive et avec des dramas qui entourent tout ça. Donc allez sur notre compte et regardez ça et dites-nous ce que vous en pensez.
C'est d'autant plus important qu'on est tombé sur des chiffres du SIDAction en France, des chiffres qui concernent les jeunes, les 15-24 si je ne me trompe pas. 42% d'entre eux pensent que le VIH peut se transmettre par un baiser et 31% croient également qu'il peut être transmis en buvant dans le verre d'une personne séropositive. Donc c'est vraiment important d'aller chercher les jeunes, informer, prévenir, dépister et traiter. C'est les 4 leviers pour faire reculer finalement le VIH. C'est d'ailleurs ce que fait la plateforme prévention SIDA tout au long de l'année et pas uniquement pour le 1er décembre. Vous faites plein de choses tout au long de l'année. Vous allez notamment sur les festivals en été à la rencontre de tous les gens. On retrouve d'ailleurs tout ce que vous faites sur votre site, préventionsida.org. Vous retrouvez toutes les infos là-bas. Merci en tout cas Thierry d'être venu nous voir ici sur Fun Radio.
Merci Simon.
Retrouvez Fun for You avec Partenamut
en podcast sur le site et l'appli Fun Radio BE.